C'est grâce à cette parole que nous avons reçue que nous avons pu faire ce cheminement devant Dieu, nous rappeler de sa grâce, de son pardon, et ceci au travers de l'expérience du peuple d'Israël autrefois. Je vous invite à lire deux textes qui nous renvoient à ce que le Seigneur a fait autrefois et qui nous invitent à en prendre compte. Et je vous invite à lire un premier texte dans le livre du Deutéronome, au chapitre 6, à partir du verset 20. Deutéronome 6, à partir du verset 20. Ça fait partie des instructions données aux Israélites. Lorsque ton fils te demandera un jour, que signifient les instructions, les prescriptions et les règles que l'Éternel, notre Dieu, vous a données ? Tu lui répondras, nous étions esclaves du Pharaon en Égypte, et l'Éternel nous a fait sortir de l'Égypte par sa main puissante. L'Éternel a accompli sous nos yeux de grands miracles et des prodiges, porteurs de malheur pour l'Égypte, pour le Pharaon, pour toute sa maison. Il nous a fait sortir de là pour nous amener dans le pays qu'il avait juré à nos ancêtres de nous donner. L'Éternel nous a ordonné de mettre toutes ces prescriptions en pratique et de craindre le Seigneur notre Dieu, pour que nous soyons toujours heureux et qu'il nous conserve la vie comme il le fait aujourd'hui. Nous aurons droit à la justice lorsque nous veillerons à mettre en pratique tous ces commandements devant l'Éternel, notre Dieu, comme il nous l'a ordonné. Et j'invite à lire un deuxième texte dans la première épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 10, et nous lisons les versets 1 à 13, 1 Corinthiens 10, les versets 1 à 13. Paul est en train de traiter d'une question difficile pour les Corinthiens de son époque, les chrétiens de Corinthe. Ils doivent participer à des tas de cérémonies sociales où il y a également des sacrifices offerts à des idoles dans le temple. Que faire ? 1 Corinthiens 10, verset 1. « Frères, je ne veux pas vous laisser ignorer que nos ancêtres ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé à travers la mer. » Ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer. Ils ont tous mangé la même nourriture spirituelle. Ils ont tous bu la même boisson spirituelle. En effet, ils buvaient à un rocher spirituel qui les accompagnait. Ce rocher était le Christ. Mais la plupart d'entre eux n'ont pas été approuvés par Dieu, puisqu'ils sont morts dans le désert. Or, ces faits sont arrivés pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Ne devenez pas idolâtres comme certains d'entre eux. En effet, il est écrit, le peuple s'assit pour manger, pour boire, puis ils se levèrent pour s'amuser. Ne nous livrons pas non plus à l'immoralité sexuelle, comme certains d'entre eux l'ont fait, de sorte que 23 000 sont tombés en un seul jour. Ne provoquons pas Christ comme certains d'entre eux l'ont fait, si bien qu'ils sont morts victimes des serpents. Ne murmurez pas comme certains d'entre eux l'ont fait, de sorte qu'ils sont morts sous les coups du destructeur. Toutes ces choses sont arrivées pour servir d'exemple. Elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des temps. Jusqu'ici, notre lecture. Qu'y a-t-il de commun entre ces deux textes que nous avons lus ? Ce qu'il y a de commun, c'est qu'ils ont une démarche qui est un petit peu décalée. Dans chacun de ces textes, il y a un monde entre la question de départ et la réponse qui est donnée. Dans le Deutéronome, on part d'une question d'un enfant à un parent à propos des commandements de Dieu. Lorsque ton fils te demandera que signifient ces commandements, vous répondrez, et là, admirez la continuité, vous répondrez, nous étions esclaves du Pharaon en Égypte et le Seigneur nous a fait sortir d'Égypte. La question porte sur les commandements, la réponse parle de l'histoire. Pas tout à fait le même registre. Dans 1 Corinthiens, Paul traite d'un problème très précis de chrétiens grecs qui vivent dans une ville à Corinthe à propos d'un problème particulier de leur vie sociale. Toutes les rencontres sociales ou professionnelles avaient lieu dans des temples de la cité et il y avait toujours à côté des repas un sacrifice offert. La question pour les Corinthiens, c'est que faire dans cette circonstance ? Comment se comporter ? L'un des aspects de la réponse de Paul est aussi d'invoquer l'histoire du peuple d'Israël. Frère, je ne veux pas que vous l'ignoriez. Nos pères ont été dans la nuée, ils ont tous été baptisés en Moïse, mais la plupart ne furent pas agréables à Dieu. Décalage, là encore. La question pratique, immédiate des Corinthiens, est abordée par le biais d'un long détour historique où on passe par le désert. Et ce décalage va très loin. Ce sont aussi deux mondes qui s'opposent. Les Corinthiens, pour la plupart, ne sont pas juifs. Ils ont un arrière-plan complètement étranger à tout ça. Parler de leur père, c'est quand même pas du tout ce qui leur est naturel. Et Paul parle de cette façon. Leur problème est un problème que l'on rencontre en ville, dans un milieu culturel grec. Et Paul évoque le désert où Israël est là, tout seul, à l'écart, loin de tout. La mer rouge qu'ils ont traversée, la nuée qui les a guidés, le rocher d'où l'eau avait jailli. Tout ça est loin, très loin. Pourquoi une telle manière d'aborder les choses? Je pense que ça vaut la peine d'y réfléchir, parce que c'est une des caractéristiques de la parole qui nous a été donnée que de fonctionner de cette façon-là. Alors évidemment, dans notre contexte d'aujourd'hui, faire appel au passé, faire appel à l'histoire, n'a pas beaucoup de valeur pour beaucoup de gens. Ce qui compte, ce qui suscite tous les efforts, c'est de vivre avec notre temps. Il faut surtout être dans le coup, il faut rester dans le coup. Il faut vivre au rythme des changements, des nouveautés, on sait que ça va de plus en plus vite. Notre monde évolue à une vitesse vertigineuse, alors les histoires du passé, les solutions à papa, c'est bien gentil, mais disons que ça fait un peu sourire. La vie, la vraie vie, elle est devant. Et en parlant des solutions à papa, papa a beau s'accrocher comme il peut, de temps en temps, ça décroche, on le sait. S'appuyer sur l'histoire passée, aujourd'hui où les choses avancent si vite, cela peut nous sembler condamner nous-mêmes à être dépassés. Et c'est pourquoi je crois qu'aujourd'hui, si on reprenait la question du Deutéronome, on aurait tendance à inverser les propos. Lorsque ton fils te demandera « Que veulent dire ces commandements ?», lui réponds surtout pas « J'étais esclave en Égypte ». Ça, c'est la mentalité d'aujourd'hui. Pourtant, on ne peut pas lire la Bible sans être renvoyé à une histoire. L'histoire d'un peuple, le peuple d'Israël, auquel Dieu s'est fait connaître et par lequel Dieu s'est fait connaître. L'histoire de Jésus, en qui Dieu lui-même a endossé notre vie et notre histoire. L'histoire de l'Église ensuite, avec la formidable ouverture du plan de Dieu aux hommes de tout peuple, de toute race, de toute nation. Dieu a choisi de se faire connaître dans l'histoire. C'est une donnée essentielle, une donnée incontournable de la Bible. Si vous supprimez cela, vous ôtez une des spécificités de la foi chrétienne. Alors je pense que c'est bien que nous réfléchissions à la sagesse, à la richesse de cette spécificité. Et je propose deux lignes principales. De dire d'abord que le rappel de cette histoire donne son vrai sens à la parole de Dieu. Et la deuxième ligne, c'est que la référence à l'histoire enrichit pour nous aujourd'hui la palette des significations que nous pouvons donner à ce que nous vivons à présent dans notre contexte contemporain. Premièrement donc, le rappel de l'histoire donne son vrai sens à la parole de Dieu. La question du Deutéronome porte sur les commandements de Dieu. Ces commandements sont condensés dans l'Ancien Testament par le Décalogue, les 10 commandements, qui résument en quelque sorte la volonté de Dieu au sens le plus large. Mais ces 10 commandements ne commencent pas par le premier commandement. Ils ne commencent pas par un commandement. Il commence par un mot d'histoire. Un mot d'histoire qui éclaire tout et qui fait toute une différence. Avant de dire « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face », le Seigneur dit « Je suis le Seigneur ton Dieu qui t'ai fait sortir d'Égypte de la maison de la servitude. » Et si avec cette phrase ou sans cette phrase, tout change. Sans ce rappel de l'histoire, le commandement est simplement un commandement. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi, tu ne feras pas d'image taillée. Avec ce rappel de l'histoire, le commandement s'inscrit dans quelque chose de vivant, quelque chose qu'on a expérimenté, quelque chose que Dieu a fait, Ça s'inscrit dans quelque chose de fort, quelque chose où l'on découvre que le Dieu qui donne ses lois est aussi un Dieu qui s'implique dans notre vie et qui s'implique dans notre vie pour y manifester une relation vivante, une relation où il s'engage, une relation généreuse, une relation libératrice. Et ça donne tout un éclairage à tous les commandements de Dieu. Ça donne une force, ça donne une ligne, ça donne un souffle. Et c'est cela, ce que disent les longues pages d'histoire qui font la trame de la Bible et qui la rendent si différente tant du Coran que des textes sacrés de l'Orient. L'histoire biblique n'est pas le signe d'une mentalité qui serait un peu bégayante et qui ne saurait que regarder en arrière. L'histoire biblique est là pour nous dire que la force de la parole de Dieu n'est pas simplement un commandement. Elle est portée par une relation, la relation avec un Dieu qui s'intéresse à ce que nous vivons, qui s'implique dans ce que nous vivons, qui a fait dans la vie des hommes et qui veut faire encore dans la vie des hommes de belles choses. L'histoire, le récit sont des manières aussi de présenter la loi de Dieu, ses commandements, dans son vrai contexte, qui est un contexte de relation, d'engagement de Dieu. Et là, la réponse que le parent israélite était invité à donner à son fils ou à sa fille devient très lumineuse, très belle. Pourquoi ces commandements et ces lois ? Mais écoute, mon enfant, on a vraiment un Dieu qui nous aime. On a vraiment un Dieu dont la première et la plus grande action a été de nous libérer de l'esclavage pour qu'on puisse vivre debout, en homme libre, en femme libre. Ce qu'il avait promis à nos pères, il l'a accompli avec puissance. Et ça a marqué notre vie. Et celui qui a donné ces commandements, c'est ce Dieu-là. Le sens des commandements, il est là dans cette lumière d'un Dieu qui agit, d'un Dieu qui nous accompagne. Il veut notre bien, il veut notre bonheur, il est présent, il est agissant. On peut compter sur lui, ça vaut la peine aussi de lui obéir. Et nous qui sommes arrivés plus loin que l'Israélite du temps du Deutéronome, nous pouvons ajouter, et Dieu a fait bien plus encore, pour nous libérer de ce qui nous rendait esclaves intérieurement, pour nous libérer du poids de notre culpabilité devant lui. Il est venu lui-même, il s'est donné lui-même pour nous, pour nous montrer à quel point il s'intéresse à nous, à quel point il veut nous rejoindre dans tout ce que nous sommes. Il a pris lui-même la forme d'un homme, Jésus. Il a vécu parmi nous, il a vécu comme nous, près de nous. Il est allé jusqu'à mourir pour nous, d'une mort qu'il ne méritait pas, pour que nous n'ayons pas à payer le prix que méritaient nos fautes. Il est mort, oui, mais il a aussi triomphé de la mort. Tout aussi vrai qu'il est mort, il est ressuscité d'entre les morts. Et cela nous permet d'être libérés d'un autre esclavage, celui de la peur de la mort, qui ronge parfois si fort. Et il a voulu nous donner, en plus du pardon, la vie éternelle et une bonne espérance. Et ça, c'est fort dans une vie. Et ça, c'est magnifique. Voilà notre Dieu. Pourquoi ces lois ? Pourquoi ces ordonnances ? Pourquoi ce mode de vie ? Nous ne sommes pas réduits à répondre parce que c'est comme ça, parce qu'il faut se soumettre. Ce n'est pas comme cela que l'on voit les choses dans la foi chrétienne. En tant que chrétiens, nous pouvons éclairer le commandement de Dieu par tout ce que Dieu a fait pour nous. Et qui dit tellement fort ce qu'il veut être pour nous. Il y a aussi un message formidable de grâce et de pardon, et nous l'avons exprimé ensemble ce matin pendant la première partie de ce culte. Et c'est ainsi que la foi et l'obéissance peuvent devenir une reconnaissance envers Dieu, une réponse d'amour à ce que nous avons déjà reçu. Et il y a là un magnifique rempart contre le légalisme, qui ne voit dans le commandement qu'une sorte de règle qu'il faut appliquer ou qu'il faut subir selon le côté duquel on se trouve. Voilà le premier sens de cette histoire qui porte le commandement de Dieu. Cela situe vraiment ce commandement dans une relation, dans une vie vraiment où le Seigneur est intervenu, où il agit. Mais en même temps, raconter ce que Dieu a fait dans le passé, comme notre texte nous y invite, c'est immanquablement se raconter soi-même aussi d'une certaine façon. Car l'Israélite était invité à dire « Nous étions esclaves et Dieu nous a délivrés ». Et quand on commence à parler comme ça sur un mot personnel, « Nous avons été esclaves, nous avons été délivrés », évidemment, quand un enfant dialogue, ça amène à d'autres questions. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe pour toi? Et aujourd'hui, qu'est-ce que Dieu fait pour toi? Autrement dit, le passé que l'on confesse comme un passé que l'on s'approprie véritablement, ce passé-là est aussi quelque chose qui nous invite à dire ce que nous vivons ou ce que nous avons nous-mêmes vécu avec ce Seigneur qui a déjà fait des choses dans l'histoire des hommes. Autrement dit, le détour par l'histoire du Dieu vivant et agissant conduit alors au témoignage, à ce que nous vivons véritablement aujourd'hui encore. Et là, on voit toute la force, toute la dynamique de cette manière d'aborder la foi. On ne parle pas simplement d'idées. On ne parle pas simplement d'idées. On parle aussi personnel, d'un Dieu vraiment qui, avec qui on vit quelque chose. Et je crois que c'est aussi l'un des buts de ce texte du Deutéronome, conduire par le rappel de l'action passée de Dieu à parler aussi du présent. Car chaque génération est appelée à témoigner de ce que Dieu est pour elle. Le psaume 55 dit que chaque génération célèbre tes œuvres et publie tes hauts faits. Nous sommes, nous qui sommes héritiers de ce que Dieu a fait dans le passé, nous sommes aujourd'hui encore, avec tout cet héritage et fort riche de cet héritage, nous sommes témoins du Dieu vivant. Ce témoignage a des racines très lointaines, très profondes, dans l'histoire. Mais c'est aussi une affaire d'aujourd'hui. Et il nous faut veiller à savoir pour nous-mêmes aujourd'hui, lorsque l'on pense à l'action de Dieu, bien sûr, fonder tout ce que nous pensons sur ce que nous dit l'Écriture, mais veiller aussi à relever dans notre vie ce que Dieu fait pour nous, à apprécier ce que Dieu fait pour nous aujourd'hui encore, et à savoir lui donner une pleine valeur, à le laisser vivre en nos cœurs, pour que vraiment ce soit aussi de l'abondance du cœur que la bouche puisse parler lorsque nous parlons de Dieu, que les gens qui nous entourent se rendent compte que Dieu, ce n'est pas simplement une idée pour nous, mais que Dieu, c'est vraiment quelqu'un avec qui nous vivons des choses aujourd'hui. Alors bien sûr, il ne s'agit pas de mettre Dieu à toutes les sauces et de l'associer à tout et n'importe quoi, ce n'est pas cela. Mais là où vraiment Dieu est intervenu pour nous, s'il nous a fait du bien, s'il nous a soutenus, s'il nous a relevés, s'il nous a délivrés, c'est bien de nous en souvenir et c'est bien de le dire aussi quand on en a l'occasion. Les Israélites étaient invités à parler à leurs enfants sur un mode personnel du Seigneur. Nous aussi, nous sommes invités à faire de même. Ne disons pas simplement « voilà ce que Dieu veut », mais sachons dire aussi « voilà ce que Dieu fait pour nous, ce que Dieu a fait pour nous ». Et c'est aussi vraiment une belle perspective. Le rappel de l'histoire donc donne son sens au commandement, nous implique aussi personnellement celui qui parle. Mais rappeler l'histoire enracine aussi, troisièmement, dans la confiance. Cela enracine dans la confiance. Alors nous, quand on fait face à la vie, on doit prendre les choses comme elles viennent. On fait face à l'immédiat. Il faut faire face à ce qui est là, à ce qui survient. Et souvent, on est un peu pris de court par ce qui survient. Ou parfois, on est enfermé dans ce qu'on vit, on n'arrive pas à en sortir. On n'arrive pas à voir plus loin. Et c'est ici qu'il est très bon aussi pour nous de pouvoir revenir à l'histoire de l'action de Dieu, en dehors de ce que nous vivons immédiatement. Il est bon de pouvoir revenir à d'autres choses et éclairer ce que nous vivons aujourd'hui par ce qui s'est passé et ce qu'ont vécu d'autres, mais qui garde sens pour nous aujourd'hui. Car cela permet de retrouver parfois des lignes que l'on ne discerne plus quand on est en plein dans ce qu'on vit soi-même. On découvre une fidélité de Dieu. On découvre un recours toujours possible. On découvre des paroles, des textes que l'on peut s'approprier soi-même et qui changent notre perspective véritablement. On découvre le rappel que Dieu est proche, qu'il n'abandonne pas. Et tout cela fortifie la confiance. La longue histoire du cheminement de Dieu avec son peuple. Et cette histoire qui, quand on la voit, recouvre tellement de situations différentes. Cette histoire nous est donnée comme une sorte de fil conducteur. Dans le tourbillon des événements qui surviennent, nous avons des repères. Quand nous y voyons plus clair, nous pouvons trouver dans cette histoire qui nous a été donnée des points de référence. Ce que Dieu a été autrefois, il peut l'être encore aujourd'hui pour nous, car il ne change pas. Et c'est ainsi que l'expérience de ceux qui nous ont précédés et que nous rapporte la Bible peut nous enrichir nous-mêmes et devenir et enrichir en quelque sorte notre expérience à nous. Nous pouvons nous appuyer sur ce que Dieu a fait pour attendre encore ce qu'il va faire pour nous. Et ce témoignage intégré devient source de confiance, d'espérance et d'une foi qui s'attend à Dieu et qui se renouvelle dans la confiance. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ce petit miracle. Vous lisez une histoire vieille de 20, de 27 ou de 30 siècles. C'est ce qu'on fait quand on lit la Bible. Quand on lit Ésaïe, quand on lit David. C'est vieux de 27 siècles. C'est vieux de 30 siècles. Vous ouvrez ce livre qui parle de cette histoire-là, à un moment donné, et où vous commencez votre journée. Et que se passe-t-il? Vous recevez juste quelque chose qui éclaire votre journée, qui vous donne une réponse, qui vous donne une perspective, qui vous permet d'avancer. Ça vous est déjà arrivé de vivre ce miracle? Ça, c'est la parole vivante de Dieu. Et c'est le fait que ce rappel de l'histoire passée, de tout ce que Dieu a fait dans le passé, est quelque chose qui veut nous rejoindre aujourd'hui encore et qui peut vraiment nous donner force et confiance. Voilà donc pour un premier volet, ce rappel de l'histoire donne sens à la parole de Dieu, force à la parole de Dieu pour aujourd'hui. Mais, deuxième point que j'aimerais souligner, cette histoire qui nous est donnée, qui nous est conservée comme référence, nous est donnée aussi pour une autre raison, me semble-t-il. Celle de nous armer et de nous enrichir d'un certain nombre d'exemples et de repères qui nous permettent d'approfondir la signification de ce que nous vivons. Nous recevons là des repères qui nous permettent d'approfondir la signification de ce que nous vivons. C'est ce que souligne Paul lorsqu'il utilise l'histoire du peuple d'Israël au désert pour s'adresser aux Corinthiens et éclairer leur situation. Il dit « Ces événements leur arrivaient pour nous servir d'exemple et ils furent écrits pour nous instruire, nous qui touchons à la fin des temps. » Paul dit ici que l'enseignement de la Bible est un enseignement dans lequel l'histoire sert d'exemple. Et le mot qu'il emploie est un mot qui va un peu plus loin que de simplement dire exemple de ce qu'il faut faire et de ce qu'il ne faut pas faire. Ce n'est pas juste ça, c'est un aspect de la notion, mais c'est aussi dire que cette histoire qui a été donnée permet des rapprochements avec ce que nous vivons, de telle sorte que cela donne de la signification à ce que nous vivons aujourd'hui. Dieu s'est révélé dans une histoire qui en elle-même est très locale, très particulière. Mais dans cette histoire, il nous fait comprendre quelque chose de sa manière d'agir, de sa manière de voir. Et il donne sur un certain type de situation des clés pour les voir, pour les aborder, que nous pouvons éventuellement tester pour voir si elles s'appliquent à nous et que nous pouvons parfois nous approprier par rapport à ce que nous vivons. Un exemple. Suis-je confronté à une situation de difficulté ou d'épreuve qui dure depuis longtemps? Suis-je dans cette situation? Si je veux penser cette situation en fonction de ce qui nous est donné dans la Bible, en fait, j'ai dans la Bible plusieurs situations qui peuvent me donner des éclairages possibles dans ce que je vis là maintenant, ce temps où c'est un peu dur et où ça dure longtemps. Vous avez par exemple l'exemple de Noé dans son arche. Cet exemple nous rappelle que parfois, il faut du temps pour que tout revienne dans l'ordre. Avec le déluge, il fallait du temps pour que tout se sèche de nouveau. Il faut du temps pour que tout revienne dans l'ordre. Mais en même temps, alors que ces délais doivent être respectés, Noé, le croyant, est en sécurité dans l'abri que Dieu nous donne. Voilà une lumière, un éclairage, une situation d'épreuve qui dure. Vous pouvez aussi penser alors à ce moment-là à Abraham. Abraham, pour qui la durée a été une sorte d'école de foi et d'attente que se réalise la promesse. Dieu lui avait promis quelque chose. Ça mettait du temps à venir, mais ça a fortifié sa foi. Autre regard. Vous avez Israël au désert, qui a passé aussi du temps, ça a été dur, mais où cette épreuve était un lieu de formation et en même temps le soutien de Dieu dans tout le temps de la traversée du désert. Il y a l'exemple de la persévérance des prophètes qui restent dans des situations difficiles par solidarité avec ceux qui les entourent. Il y a l'exemple de l'exil où on est loin de ses racines, mais où Dieu reste présent et agissant. Et voyez que la même situation, je me trouve dans une épreuve qui dure, en recueillant le témoignage de l'histoire qui nous est donnée de l'Écriture, il y a un certain nombre de significations que je peux donner à ce que je vis, et je peux avancer aussi avec cela. C'est une sorte de palette qui m'est donnée, à partir de laquelle je peux penser ma situation et l'assumer devant Dieu en lui donnant un sens. Et là, si j'intègre ces exemples du passé dans ma vie, ce n'est pas parce que mes modèles sont des modèles du passé, mais c'est parce que je reconnais que dans l'histoire rapportée dans l'Écriture, il y a vraiment un lieu où, de manière unique, Dieu a semé des enseignements sur lui-même, sur sa manière de voir, sur sa manière d'agir. Je peux me les approprier dans ma relation avec Dieu aujourd'hui. Et ce que je voudrais souligner ici, c'est la valeur d'une telle palette de significations. Notre monde actuel est un monde riche en solutions techniques. Quel que soit le problème, on a une solution technique. Faut-il partir en voyage? Vous avez le TGV, la voiture, l'avion, tout ce que vous voulez avec des réseaux qui fonctionnent. Vous avez un problème de santé, les moyens médicaux, les structures sont quand même au point, c'est magnifique, toutes ces possibilités. Tous ces moyens techniques sont des bienfaits extraordinaires. Mais ils ne peuvent pas répondre à tous ces moyens techniques. Et en particulier, notre vie a besoin de sens. Il faut pouvoir donner de la signification à ce que je vis. Et pour cela, il faut autre chose que les solutions qu'apporte la technique. Le savoir-faire des médecins est précieux s'il me donne la santé. C'est magnifique. Mais si j'ai la santé et que je n'ai pas de vraie raison de vivre, ça ne m'avance pas beaucoup. Il faut de la signification dans notre vie. Notre vie a besoin de signification. Et c'est ce que Dieu a voulu faire pour nous en nous donnant une histoire riche à laquelle nous pouvons nous référer. Ces choses nous sont rapportées pour que nous puissions charger de signification les événements de notre vie. Alors, il y a plein d'exemples que l'on peut essayer de mettre en avant. Que faire si je dois renoncer à quelque chose? Je dois renoncer à quelque chose. J'ai encore là une palette de significations possibles. J'ai l'exemple d'Abraham, qui a été mis à l'épreuve en donnant son fils unique. Et là, c'est renoncer veut dire peut-être un moyen de dire un amour fort à Dieu. Je t'aime plus que tout. Il y a Moïse qui renonce aux richesses de l'Égypte. Et là, c'est un renoncement qui affirme que j'accorde une plus grande valeur à ce que Dieu veut, au plan de Dieu. Et j'ai l'espérance aussi de ce que Dieu va faire. Et je peux voir les choses de cette façon. Vous avez Jérémie qui reste à Jérusalem dévasté. Et là, c'est un renoncement qui exprime la solidarité avec ceux qui souffrent. Vous avez Jésus qui renonce à la gloire céleste. Et c'est le renoncement de celui qui se donne en faveur du bien des autres et qui ne calcule rien. À partir de cela, de toute cette palette qui m'est donnée, je peux réfléchir et donner sens à ce que je vis. Ce sont des clés. Je ne suis pas laissé sans rien pour faire face à cette situation. Si je suis obligé de marcher face à l'inconnu, j'ai Abraham. Abraham qui marche par la foi. J'ai le rappel d'Israël au désert, où la nuée les a conduits pas à pas et disait la présence de Dieu. J'ai le modèle de Joseph. Joseph qui vit une situation où il est emporté en Égypte. Il ne comprend pas forcément tout ce qui lui arrive, mais le plan de Dieu s'accomplit malgré tout. Et voilà, les modèles me sont donnés et je peux donner du sens, je peux trouver du sens, trouver des éclairages par rapport à ce que je vis. Lorsque l'on s'interroge s'il vaut la peine de persévérer et de faire le bien encore, il y a des exemples. David et sa loyauté à l'égard de Saül et le fait que c'était bien de persévérer comme ça, de rester toujours sur la ligne de droiture. Jésus qui va jusqu'au bout de sa fidélité, qui persévère et les fruits magnifiques de son œuvre. Et puis, à l'inverse, les exemples négatifs de ceux qui ont tout gâché parce qu'ils ont manqué de persévérance et de stabilité. Là aussi, des éclairages. Vous voyez, on pourrait multiplier les exemples comme cela, mais c'est juste pour nous dire l'une des richesses de ce livre qui rappelle l'histoire de Dieu avec les hommes, de l'écriture donnée de cette façon-là, c'est vraiment que nous avons une palette de significations. Et ça nous permet de ne pas juste subir le cours des choses, mais d'y réfléchir avec des repères et de pouvoir donner sens à ce que nous vivons. L'histoire biblique, si on l'assimile comme un modèle dynamique, nous offre des repères, des perspectives qui apportent du sens. Nous avons besoin de développer des vies riches en signification. La révélation de Dieu dans l'histoire nous est donnée dans ce but-là. C'est un beau cadeau. Alors je termine par une toute petite histoire. Je crois que je vous l'ai déjà racontée, mais ce n'est pas grave. Hein. Alors, c'est une petite histoire de trois tailleurs de pierre. Trois tailleurs de pierre travaillent dans leur carrière au même ouvrage. Ils sont chacun en train de tailler un bloc de pierre. On demande au premier ce qu'il fait. Il répond « Je travaille cette pierre pour lui donner une forme. » On demande au second « Que fais-tu, toi ?» Il dit « Moi, je participe à la réalisation d'une voûte. » On demande au troisième « Que fais-tu ?» Il répond « Moi, je participe à la réalisation d'une cathédrale. » Ils faisaient tous trois la même chose, mais ils avaient une perspective qui changeait tout. Alors, nous ne travaillons pas forcément chacun et tous les jours pour des cathédrales, mais cela ne veut pas dire que nous ne devons pas voir plus loin que le bout de notre burin. Amen.